Les par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravi de vous retrouver ce matin, ce lundi 6 mars 2017. C'est Clotilde Seille qui vous parle et qui vous présente les paractualités du jour. Les titres, des parents d'enfants handicapés se font refuser un crédit d'impôt. 15 000 élèves en difficulté de plus en 2 ans dans les écoles du Québec. Une première entrevue avec Audreline Lachance, directrice générale de l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées. Et puis nous retournerons avec quelques nouvelles régionales et notamment celle de Chloé Sainte-Marie qui milite pour une maison de répit et des locataires handicapés de Saint-Constant qui lancent un cri du cœur à Québec. Nous allons également faire connaissance avec Joanne Savard, la directrice de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle. Et nous nous intéresserons à cette famille et à cette poursuite de 20 millions de dollars pour cette adolescente paralysée à Windsor suite à une erreur de la ville. Et au Japon, nous irons au Japon. Au Japon, il existe une espèce de tapis volant dans le métro japonais et c'est un exemple que tout le monde devrait suivre dans le monde entier. Alors, centre de répit de Longueuil, des parents de jeunes enfants lourdement handicapés de la Montérégie s'opposent à une récente décision de Revenu Québec qui leur refuse un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants s'ils continuent à fréquenter un centre de répit et de stimulation de Longueuil. Le centre Petite Échelle de Longueuil est un centre de répit et de stimulation pour des enfants qui ont en moyenne de 4 à 5 ans. Environ 70 familles de la Montérégie profitent de ces services offerts 7 jours sur 7 en payant jusqu'à 7 000 $ par année. L'organisme à but non lucratif existe depuis une vingtaine d'années. Jusqu'à maintenant, les parents pouvaient obtenir un crédit d'impôt pour les frais de garde. Revenu Québec a toutefois adressé une lettre à des parents qui ne peuvent plus se qualifier pour ces frais. Julie Fortier débourse 5 000 $ par année pour sa fille de 5 ans, lourdement handicapée. Ça peut représenter jusqu'à environ 30% du montant qui nous est retourné, donc peut-être 1 500 $ et près même de 2 000 $. Si on n'a plus le droit d'avoir ce crédit-là, il va peut-être falloir commencer à penser à l'envoyer ailleurs, explique Madame Fortier, qui est représentante du comité de parents. Au début, on s'est fait dire par Revenu Québec que c'était parce qu'on offrait du 1 pour 1. Et après ça, Revenu Québec nous disait que c'est parce qu'on faisait de la stimulation, de dire Isabelle Julien, directrice du centre de Petite Échelle. Un fonctionnaire de Revenu Québec a même répondu aux parents qu'à l'avenir, ils devraient se trouver une place dans un centre de la petite enfance. Sans ce crédit, de nombreux parents ne pourront plus avoir recours à ces services. J'ai l'impression qu'on nous prend encore pour cible alors que notre vie est déjà assez complexe comme ça, conclut Madame Fortier. 15 000 élèves en difficulté de plus en 2 ans dans les écoles du Québec. Le nombre d'élèves en difficulté ne cesse d'augmenter. Et c'est ce qu'a appris le Journal de Montréal. Au secondaire, près de 30% des élèves font maintenant partie de cette catégorie dans le réseau public. Égide Royer, professeur spécialisé en adaptation scolaire à l'Université Laval, n'est pas étonné par ces chiffres qu'il juge toutefois préoccupants. La proportion d'élèves en difficulté est particulièrement élevée au secondaire. C'est comme si la situation se détériorait. En cours de route, lance-t-il. Cet expert y voit un indice qui laisse croire que l'intervention auprès des élèves qui traînent la patte dès le début du primaire n'est pas faite de façon systématique et efficace, si bien que les difficultés s'aggravent au fil des ans. C'est ce qui pourrait notamment expliquer que la proportion d'élèves en difficulté est plus élevée au Québec qu'ailleurs. Dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis, elle se situe plutôt autour de 15% contre 20% chez nous, indique M. Royer. Luca, 12 ans, est autiste Asperger. Il a commencé son parcours scolaire dans une classe spécialisée avant d'intégrer une classe normale il y a 3 ans. Un virage qui a changé sa vie. Pour Luca, c'est plutôt le passage dans une classe spécialisée qui a grugé son estime de soi et son goût de vivre, explique sa maman Lucilla Guerrero, qui est elle-même autiste. « Je me souviens très très bien d'avoir parlé de cet organisme, je dirais plutôt de cette association, l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de la Naudière. Et ce n'était pas forcément pour annoncer une bonne nouvelle. On devrait avoir confirmation ou infirmation de la part de Madame Audrey-Lyne Lachance, qui en est la directrice régionale. Bonjour Madame Lachance.
Bonjour Madame Stey.
Alors Madame Lachance, j'aimerais d'abord que vous rappeliez peut-être à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas la mission de votre organisme, s'il vous plaît.
Oui, en fait, on est un organisme communautaire autonome à but non lucratif. On regroupe présentement 34 organismes du secteur personnes handicapées dans la région. Notre mission, c'est de promouvoir et développer le loisir pour les personnes ayant une déficience pour l'ensemble de la région. Mm-hmm. Dans le fond, on représente comme la voix du secteur personnes handicapées en matière de loisirs. Au Québec, il y a 11 associations régionales de loisirs pour personnes handicapées comme nous, qui font la même mission.
Quand vous dites handicapé, on parle de toute forme de handicap?
Oui, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique, visuelle, auditive, oui.
OK, et autant pour les enfants que pour les adultes?
Oui, oui. Oui,
ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un volet pour les personnes âgées ou pour les maladies comme Alzheimer ou autre?
Non,
d'accord.
Ça fait pas partie.
Non, c'est correct. Hein. C'est parce que je pose la question pour qu'on fasse mieux connaissance, encore une fois, avec ce que vous proposez. Madame Lachance, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Parce que, comme je le disais en préambule à notre entrevue, je me souviens très nettement avoir lu une nouvelle qui annonçait la fermeture de votre association.
Oui.
C'est une fausse rumeur?
Non, c'est tout à fait vrai. En fait, pour le moment, on est toujours dans l'attente de nouvelles du ministère, à savoir qu'est-ce qui va arriver avec nous. On ne sait toujours pas, on n'a pas eu aucune correspondance à ce sujet-là. Dans le fond, on ne sait pas. Normalement, si on ne reçoit rien, au 31 mars, on devrait fermer nos portes.
Au 31 mars?
Oui.
Mais
oui,
c'est demain matin, ça voyez-vous, oui. Là, moi j'allais dire après-demain, mais vous avez raison de dire que c'est demain matin. Qu'est-ce qui a été fait pour contrer ça en ce moment? J'imagine qu'il y a des actions qui ont été menées.
Oui, présentement, nous on a rencontré les députés de notre région du Parti québécois, de la coalition Avenir Québec. On a demandé du soutien au conseiller politique de Mme Thériault, la vice-première ministre du Québec, qui est aussi ministre responsable de la région. On a fait des conférences de presse, on fait des entrevues, on a appelé au cabinet directement du ministre. On nous dit toujours qu'on travaille sur le dossier, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, on est toujours dans le flou, on ne sait rien.
Parce que, dites-moi, madame, concrètement, imaginons que cela arrive. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que ça représente, vous le disiez, hein, ça représente combien d'organismes à peu près que vous chapeautez comme ça?
Nous, on a 34 organismes membres chez nous.
Donc, ça représente plusieurs centaines de personnes qui sont consacrées et des employés et des personnes handicapées qui profitent de ces services-là.
Oui, on a calculé que minimalement, il y a au moins 5000 personnes qui bénéficient des services de nos organismes membres directement.
Non.
Puis c'est ça, c'est à part de tous ceux qu'on n'a pas calculés qui demandent. Il y en a beaucoup plus que ça, là. Mais c'est sûr que nous, concrètement, c'est la perte d'un organisme de 38 ans qui détient l'expertise en matière de loisirs personnes handicapées. C'est la perte de la vie démocratique, de notre autonomie, du droit de parole. On a un plan d'action mis en place par les personnes, le secteur personnes handicapées. Donc, c'est toute cette perte-là aussi que...
Mais qu'est-ce qui vous ont donné comme... Est-ce que c'est uniquement à cause de l'argent, à cause des finances?
Oui, en fait, c'est que nous, on a toujours reçu notre financement. Le ministère de l'Éducation envoie l'argent aux unités régionales de loisirs et de sport qui, eux, nous retransfèrent le volet soutien aux personnes handicapées. Ça fait depuis 1998 qu'on reçoit notre argent comme ça. Ça a toujours bien fonctionné. Là, cette année, on nous a informé qu'on était en année transitoire, qu'à partir du 1er avril, l'unité régionale de loisirs et de sport pourrait plus nous transférer l'argent comme avant, parce que ça fait partie d'un contrat. Mm-hmm. Et que eux, dans le fond, s'ils veulent le transférer à un autre organisme comme nous, ben on doit aller sur invitation à au moins deux fournisseurs. Fait qu'il y aurait possibilité qu'eux décident de faire le mandat tout simplement puis de pas faire appel à un autre fournisseur. Ou sinon, ben eux, ils ont le choix de l'envoyer à nous puis un autre organisme. Mm-hmm. C'est toute la perte. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que ça va s'en aller? Ça pourrait être un organisme du secteur privé. On ne sait pas, là. C'est toute la perte.
Rappelez-nous qui se cache derrière eux, parce que j'ai pas bien entendu. Et ils vous fournissaient combien d'argent annuellement, si ce n'est pas indiscret, madame, okay. Lachance?
Oui, non. En fait, nous, ici, c'est Loisirs Sports Lanaudière. Mm-hmm. Puis on reçoit 62 000 $
Pour l'année?
C'est tout.
Pour les 24? Organisation pour les...
Non, nous, on est un regroupement.
Oui, oui, c'est ça, mais...
Services. Non, non, les 34 organismes, mais eux, ils reçoivent...
D'accord, d'accord. Excusez-moi, c'est parce que tout d'un coup, j'ai failli m'étouffer avec ma tasse de café.
Non, ça, c'est nous qui reçoivons ce montant-là pour faire la promotion et le développement du loisir dans la Lanaudière. Mm.
Avez-vous un petit brin d'optimisme ou pas du tout?
Je sais pas. J'étais un peu optimiste au début. Là, je commence à être très inquiète parce que c'est ça, on sait toujours pas où qu'on s'en va. Puis on a beau attendre, on a beau appeler, on n'a toujours pas de réponse. Fait que moi, ce silence-là me fait peur.
Bien sûr.
Mais
bien
peut-être
sûr.
Qu'ils vont nous donner une bonne nouvelle. Qui sait? Je l'espère sincèrement.
Madame Lachance, c'est évidemment, on espère même que votre nom va vous servir et va vous porter chance dans cette entreprise. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les auditeurs de Canal M qui nous écoutent en ce moment, qui vous écoutent, que ce soit dans la région de Lanaudière ou ici à Montréal, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, moi, j'invite les gens, on a invité nos membres aussi à contacter le cabinet du ministre directement. Pour les inviter à entrer en contact avec nous, à nous donner des nouvelles, savoir qu'est-ce qui va se passer.
OK. Quel ministère? Quel ministre?
Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
D'accord. D'accord, c'est parfait. Ben, écoutez, Madame Lachance, on a noté tout ça. On se croise les doigts et j'espère, mais vraiment, j'espère très, très fort qu'on aura l'occasion de se reparler et que vous représenterez encore cette association-là.
Merci, merci infiniment.
Vous êtes bien gentille. Au revoir, madame. Bonne journée, au revoir.
Merci, vous aussi.
Par actualité régionale, Chloé Sainte-Marie était de passage à Prévost le 26 février dernier pour faire valoir l'importance d'implanter une maison de répit et d'hébergement qui soutiendrait les aidants naturels. Née d'une initiative citoyenne, une journée de sensibilisation a été tenue pour appuyer plusieurs instances et organismes qui demandent du soutien aux aidants naturels. Marlène Chappé, intervenante en gérontologie, souhaite mettre sur pied deux importants projets qui donneraient un nouveau souffle aux proche aidant de la région des Laurentides. Elle parle d'abord de l'implantation de la maison Gilles-Carles Massilia, un centre multiservice qui offrirait de l'hébergement temporaire aux personnes aux prises avec une dégénérescence cognitive et ou en perte d'autonomie, pour ainsi permettre aux proches aidants de rester chez eux pour se reposer. Et les aidants ont besoin de se retrouver dans leurs affaires, chez eux. On doit pouvoir sortir le malade de temps à autre, soutient la célèbre Chloé Sainte-Marie. L'implantation d'un centre de jour pour les personnes souffrant de la maladie de Parkinson fait également partie des projets de Marlène Chappé. Ce centre, composé d'une équipe multidisciplinaire, infirmière, intervenant en gérontologie, orthophoniste et technicienne en animation, sera situé à Piémont et devrait ouvrir ses portes au printemps 2017. Un tel centre est évalué à 350 000 $. Madame Chappé affirme que des dons sont encore les bienvenus pour en arriver à sa réalisation. « J'ai voulu mettre en place des endroits où on fait respecter la dignité des gens. » On manque encore trop de lieux qui donnent du répit aux proches de ces malades. C'est un article écrit en collaboration avec Isabelle Houle. Le découragement se lit sur les visages de 16 résidents handicapés qui vivent dans un immeuble adapté à leurs conditions à Saint-Constant. Ils attendent du gouvernement la venue d'un intervenant afin de les aider dans leur quotidien, assurer un bon voisinage et surtout une bonne qualité de vie. Madame O'Connell est membre du conseil d'administration du programme d'accès au logement Rive-Sud-Ouest, le PAL, qui gère les appartements de la rue de l'Olivier où vivent ces résidents. Même s'ils peuvent bénéficier de transports adaptés, certains locataires s'y refusent faute d'argent ou en raison des horaires restreints. Alors les responsables du transporteur nous déposent entre autres dans un centre commercial et nous reprennent là, à la fin de la journée. Ils pensent qu'on s'amuse. On ne veut pas rester longtemps au centre commercial. On est en mode de survie, de combat, lance Mme Bollac, une autre locataire. Quant au transport offert par les bénévoles, il est difficile d'y recourir en raison de leur disponibilité. La présence d'un intervenant à raison d'une quinzaine d'heures par semaine et dont le budget annuel serait de 25 000 $ pourrait faire toute la différence, selon eux. Parmi ces résidents âgés entre 30 et 74 ans, plusieurs doivent composer avec des malformations physiques, la fibromyalgie, des fibroses pulmonaires et autres problèmes de santé. Pour le directeur de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, M. Martin Bécotte, la situation est proprement scandaleuse. Le conseil d'administration du PAL fait plus que gérer un immeuble, il gère un milieu de vie collectif. Et ça prend quelqu'un pour soutenir cette vie communautaire. Madame Joanne Savard est directrice de l'association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle. L'acronyme, c'est AVERDI. Du moins, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit. Je vais lui demander tout de suite. Bonjour, Madame Savard.
Bonjour.
Alors, vous dites bien AVERDI?
AVERDI.
Ah, AVERDI.
On prononce les lettres.
Ah, bon, d'accord. Je m'étais dit aussi, vu qu'il n'y avait pas de E. Alors, AVERDI, mille excuses. Madame Savard, présentez-nous un petit peu votre organisme, s'il vous plaît.
Donc, nous sommes, oui, l'AVERDI, l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle. L'AVERDI existe depuis une cinquantaine d'années. Donc, on est né en 1962. L'AVERDI a eu différents petits mandats sociaux. Donc, a quand même mis au monde différents services qu'on a dans notre région, dont le transport adapté, des maisons de répit comme l'Arche à Belœil. On est rendu avec 4 maisons maintenant, mais ça n'appartient pas à l'AVERDI, mais a aidé à mettre sur pied ces organismes-là. A aussi aidé à mettre sur pied des maisons de répit qui s'appellent ici, dans notre région, la maison de répit l'Intermède. Mm-hmm. Et là, maintenant, l'AVERDI est surtout en service d'écoute, d'entraide, d'information sur divers sujets, des ateliers pour des familles, des membres. On est beaucoup en loisirs aussi. Loisirs d'intégration, c'est sûr. Donc, on fait différentes soirées de danse, cinéma, des jeux, karaoké, mm-hmm. du bingo, toutes sortes de choses. Et on offre des cours aussi. Donc, on pense qu'à travers les cours, nos membres, qui sont des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, performant dans ce type de cours-là, donc on a de la chorale, du théâtre, de la danse, ça leur permet justement de pouvoir poursuivre une certaine apprentissage dans le fond.
Oui.
Ils se découvrent aussi et bien souvent à travers le jeu, comme exemple du théâtre, c'est beau en fait de les voir aller.
Ah, sûrement.
Ça touche certains aspects aussi, tu sais, certains avaient certaines difficultés à s'exprimer, donc à travers le chant, à travers le jeu. Puis ils aiment ça, vraiment, monter sur la scène, participer, se faire applaudir par leur public, tout ça, c'est vraiment le fun. Et on a aussi, c'est sûr, bien sûr, beaucoup de sorties thématiques. Oui. On va voir des spectacles, des croisières, cabanes à sucre, tout ça. Et puis, plus récemment, on offre des services de jour maintenant aussi à l'AVERDI, donc qui s'appelle le MDA, qui veut dire... mouvement, défi, action. Donc, c'est un petit peu un maintien des acquis, si vous voulez, plus, parce qu'on fait différentes activités de jour pour justement répondre aux besoins des personnes qui n'avaient plus d'activité après l'école et qui n'avaient pas un profil nécessairement pour pouvoir aller travailler, mais qui avaient quand même un certain potentiel, évidemment.
Mm-hmm.
Donc, nous, on répond à ça. On a un groupe à peu près d'une cinquantaine de personnes qui bénéficient de ces services-là. Et récemment, avec l'aide d'une subvention gouvernementale qu'on a reçue du ministère de la Famille.
Mon Dieu, c'est de plus en plus rare d'entendre ça.
Oui, mais des fois, c'est des beaux cadeaux, mais il faut trouver le financement par la suite.
Oui, c'est ça.
Donc là, on l'a déployé. Donc, on fait du maintien des acquis pour les personnes âgées, hein, parce que ça, c'est une nouvelle réalité, vous savez.
Ah oui.
On n'a pas vu venir ça, mais nos personnes vivent avec une déficience intellectuelle aussi, maintenant, avec la stimulation maintenant, puis ils ont été à l'école, ils ont travaillé, tout ça. Et ils sont devenus des personnes âgées. Mm-hmm. Il faut les apprendre à vieillir et il faut qu'ils continuent justement pour essayer d'éloigner le plus possible, le placement ou des choses comme ça dans les CHSLD. Le fait d'avoir des maintiens des acquis de jour, de les faire sortir, briser l'isolement, il y a plein de côtés positifs.
Mais oui, c'est sûr.
C'est sûr. Et donc, nous, on donne ça aussi présentement.
Mais quand vous dites qu'il y a une cinquantaine de personnes qui profitent de vos services et de toutes ces belles actions-là, est-ce que c'est un chiffre qui pourrait augmenter? Parce que ça semble, entre guillemets, madame, peu. Par rapport peut-être aux besoins. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes? J'imagine que c'est une question d'équipe qui
oui,
dit...
Oui, ben, vous avez tout à fait raison, en fait, parce que nous, c'est des ententes de service qu'on a signées donc avec notre nouveau CIS, Centre intégré des services sociaux.
Oui.
Mais c'est clair qu'il va en avoir d'autres qui vont avoir de ce genre de besoins-là, parce que vous savez, avec toute la restructuration des centres de réadaptation qu'on appelait anciennement CRDI, donc c'est clair que toute leur réorganisation fait en sorte que là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a d'énormes trous de services. Là. Nous, on essaie de se pencher sur différents, mais c'est le manque d'argent aussi. Là, le gouvernement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à un moment donné. Il faut voir que... Puis vous savez, c'est difficile pour des parents, pour nous, sortir dans la rue, se faire entendre, faire crier. Tout le monde, c'est ainsi, tire sur sa couverte, hein, puis on a toutes des bonnes causes.
Oui, mais ben surtout dans le milieu comme ça, éducateur, communautaire, éducatif et compagnie, c'est... Tout le monde crie à l'aide, hein, c'est sûr.
Oui, absolument. Ouais. Donc là, il faut être très, très, très créatif.
Oui, c'est ça.
Puis on essaie.
Puis ça prend des bénévoles, hein, comme toujours, hein, parce que je pense que j'ai lu quelque part que la VRDI, c'est comme une grande famille. Hein.
Oui, oui, absolument.
Et là-dedans, alors, vous avez des gens, évidemment, qui sont sûrement des employés, mais vous avez aussi sûrement bénévoles et besoin même de bénévoles.
Quelques bénévoles, effectivement, mais c'est plus qu'est-ce que ça a déjà été, pour être honnête avec vous. C'est de plus en plus rare. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner du temps, mais qui n'ont pas beaucoup de temps.
Non, c'est ça.
Ça ne convient pas toujours avec nos besoins. Ça fait que je vous dirais que j'ai réglé bien des problèmes en ayant été capable d'embaucher plus d'intervenantes, parce que ça a fait une grosse différence dans notre domaine, dans notre champ d'action, si vous voulez, que d'avoir des personnes qui connaissaient qu'est-ce que c'était la déficience intellectuelle.
Bien sûr.
Mais c'est clair qu'il nous reste encore à peu près une trentaine de bénévoles, mais...
quand même, hein?
Oui, ça a déjà été
beaucoup plus que ça. Bon.
Oui, oui, oui.
Madame Savard, si des gens qui nous entendent voulaient devenir membre, ou peut-être, bon, d'abord, être membre et profiter de ces services ou offrir leurs services et leur temps, on fait comment pour vous joindre?
Bien, en fait, c'est sûr que nous, on est sur les réseaux sociaux. On a la vague des nouveautés en cette matière-là. Donc, on a des réseaux sociaux, on a un site Internet et on a notre numéro. Les gens peuvent nous appeler aussi. Puis, on nous trouve quand même relativement assez facilement aussi sur Internet au www.avrdi.org. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous de cette façon-là. Sur notre site Internet est bien indiqué la façon de pouvoir devenir membre chez nous. On parle de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, mais à partir du moment où un parent va mettre son enfant membre, il va l'être automatiquement aussi.
Parfait. Madame Savard, c'est tout le temps qui nous reste, j'imagine aussi, mais juste en deux mots, on peut aider l'organisme si on va sur votre site avrdi.org.
Voilà.
Parfait. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie. Passez une très belle journée, madame Savard. Au revoir.
Merci.
À Windsor, la famille de Madison Arsenault, une jeune fille de 15 ans qui s'était empalée sur un bâton de golf, poursuit la ville de Windsor et le conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex pour 20 millions de dollars. Que s'est-il passé? L'adolescente courait au Fort Test Track Park lorsqu'elle est tombée et s'est empalée sur un bâton en mai 2016. Des employés municipaux avaient installé ces bâtons aux extrémités sciées, reliés par des câbles pour indiquer où peindre les lignes sur le gazon. Elle a été blessée au cerveau et est paralysée du côté gauche depuis l'accident. L'avocate de la famille, Jennifer Bezer, indique que l'enquête avait révélé que Madison avait trébuché sur un des câbles tendus au sol qu'elle n'avait pu voir. Dans sa poursuite, Maître Bezer affirme par ailleurs que les Arsenault ont besoin de fonds pour adapter leur maison au handicap de leur enfant qui se déplace dans un fauteuil roulant. Un des facteurs déterminants dans l'issue du procès sera de savoir si Madison peut terminer ses études, explique l'avocate. Une campagne de sociofinancement est présentement organisée pour aider la famille. Contactée par Radio-Canada, la ville et le conseil scolaire n'ont pas voulu commenter la poursuite. Et puis, ce genre d'articles qu'on aime lire. Tapis magique, handicap, tapis volant ou presque. Dans le métro japonais, figurez-vous, un petit tapis est déplié au sol devant la porte d'un wagon pour faciliter la sortie des personnes en fauteuil roulant. Et c'est un Brésilien qui en témoigne dans une vidéo qui a été vue par près de 11 millions de personnes et de fois sur Facebook, dont votre humble animatrice, Alors, c'est très simple. Nous sommes à Tokyo, dans le métro. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez l'imaginer. Et il y a un préposé, un monsieur qui est en uniforme. Il n'est là que pour ça, avec sous le bras, non pas une baguette de pain comme en France, mais un tapis qui se déplie, vous savez, comme une rampe finalement, mais qui se déplie, donc qui prend très peu de place. Alors, le métro arrive. J'imagine d'ailleurs qu'il y a plusieurs préposés, en fait, parce que c'est quand même un train assez long. Et là, on voit une porte qui s'ouvre, on voit les gens descendre exactement comme chez nous, finalement, ça pourrait être à Montréal. Sauf que, à la toute fin, les portes restent ouvertes et on voit le monsieur qui arrive et qui déplie le tapis roulant pour une personne handicapée, qui du coup parvient à descendre assez facilement. Les tentaculaires, donc stations de métro, parce que ça, faut aussi le savoir au Japon, sont équipés systématiquement. Je dis bien systématiquement, d'ascenseurs ainsi que de rampes, d'annonces sonores, de plans en relief, de rames accessibles, et ce, quelle que soit la ligne, et même sur la célèbre ligne Ginza, construite en 1931, donc qu'on ne nous dise pas que c'est parce que c'est moderne, non, ça avait déjà été pensé comme ça, ou la Yamanote qui dessert les quartiers principaux de Tokyo. Mieux, les lignes de train Shinkansen, qui sont équivalentes par exemple au TGV français, sont elles aussi accessibles directement en fauteuil via une largeur de couloir bien supérieure à tout ce qu'on peut voir dans nos pays. Et c'est la même chose à Kyoto, une ville qui est pourtant moins dense en population. Alors voilà, donc j'avais envie de vous lire ça, hein. Ça fait rêver, mais comme quoi c'est possible. Il y a beaucoup plus de monde là-bas sur un plus petit territoire, on n'a pas les grands espaces comme ici, et pourtant, voyez-vous, on s'organise, c'est possible, voilà. Le Carrefour québécois des personnes aveugles, plus précisément activité du Carrefour québécois des personnes aveugles, vous invite au souper soirée canadienne qu'ils organisent pour fêter l'arrivée du printemps. Alors, ils ont organisé une soirée qui se voudra festive et très amusante. Le tout va débuter par un souper canadien style cabane à sucre, et suite à ce souper, il y aura une soirée canadienne au rythme du musicien Michel Lemelin, accordéoniste chevronné et lui-même handicapé de la vue. Ensuite, on pourra également déguster. Pendant cette soirée, il y aura un cadeau d'une valeur de $15 pour chaque personne ou chaque couple. Il y aura des tirages de prix et des sucreries d'érable en commandite. Évidemment, si vous le désirez, vous pourrez commander des produits d'érable d'ici le 18 mars ou sur place selon les items et les prix apparaissant un petit peu plus bas dans le message, mais je ne vous commencerai pas à décliner tous les prix parce que nous n'en finirions pas. Alors, où ça se passe tout ça, cette invitation à venir fêter la nouvelle saison avec les parents et les amis? La date de la soirée, c'est le samedi 18 mars. Ça se passe au centre communautaire Cécitas Lions ou Cécitas Lions au 523 Louis XIV à Québec. Voilà, c'était Clotilde Sey, très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous présenter ces paractualités. Je vais vous souhaiter une très agréable journée. Je voudrais aussi remercier mon équipe, Martin Forgue à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté en régie. Passez une belle journée à l'écoute de Canal M et à demain, 11h30.